Culture Musique, la voix dans tous ses états.
Avec Jérôme Sandelaz.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Culture Musique.
Aujourd'hui dans Culture Musique, les voix du monde. Avec Bernard Lorta-Jacob et Jérôme Sandelaz.
Aujourd'hui donc, cinquième et dernière étape de notre série consacrée à la voix dans tous ses états, avec pour guide l'ethnomusicologue Bernard Lorta-Jacob. Bonjour Bernard Lorta-Jacob.
Bonjour.
Avant d'entrer dans le vif du sujet, quelques mots sur votre parcours. Dans les années 70, vous suivez en parallèle d'études de musicologie une licence d'ethnologie à la Sorbonne et vous découvrez vite que ces deux passions sont conciliables. En 1973, vous entrez au CNRS et réalisez une thèse sur la vie communautaire des Berbères du Haut et Moyen Atlas. Après plus de 10 missions au Maroc, vos recherches vous mènent en Éthiopie, au Mali, et surtout en Sardaigne, où vous possédez, je crois, une maison. Au cours de votre longue carrière, vous avez entre autres dirigé le laboratoire d'ethnomusicologie du Musée de l'Homme. Pour nous plonger dans cette exploration, Bernard, nous avons présélectionné ensemble des chants, presque tous issus du coffret Les Voix du Monde, sorti il y a une dizaine d'années au Chant du Monde, une anthologie absolument passionnante qui vient d'être rééditée donc cette année et à laquelle vous avez largement contribué. Parmi les trois CD que rassemble ce coffret culte, vous avez distingué plusieurs familles de voix. Les voix soufflées, parlées, déclamées, chantées, travesties, les voix et instruments de musique, les polyphonies et j'en passe. Je vous propose de faire un petit pas de côté et d'essayer de voir ensemble comment ces voix du monde se partagent entre voix de l'intime, voix de l'extrême, voix et instruments, et enfin voix et genre, qui sont les thématiques que nous avons évoquées tout au long de cette semaine. Alors avant de nous plonger dans les voies de l'intime, une petite question, Bernard Lorta-Jacob. En quoi consiste le travail d'ethnomusicologue et comment est née chez vous cette passion ?
L'ethnomusicologie, c'est une discipline assez moderne. Enfin, on en parle depuis 80 ans, 70 ans. On a dit aussi ethnologie, ethnographie musicale. En quoi ça consiste ? Ça consiste à étudier la musique de l'autre, je dirais. C'est peut-être comment elle est pensée, comment elle est vécue, comment elle est entendue. Et parce qu'au fond, chacun a une écoute musicale très, très personnelle, y compris vous-même, y compris ceux qui nous écoutent. Mais l'idée qu'on puisse construire un modèle où on arriverait à faire des recoupements sur comment la musique fonctionne dans une culture donnée, qu'est-ce qu'elle représente pour les gens, et que tout cela, ça se confronte et ça construit ce qu'on appellerait maintenant un peu pompeusement une musicologie générale. On se rend bien compte qu'on a besoin de l'ethnomusicologie. Après tout, la musicologie, ça peut pas être uniquement l'étude de Jean-Sébastien Bach, de Beethoven, quel que soit le respect qu'on doit à ces immenses messieurs. Mais c'est bien prendre en compte des choses intimes, comme vous, on va le voir, des choses, des objets musicaux. Travailler ensemble, des objets musicaux qui ne font pas forcément l'unanimité, qui ne s'écrivent pas surtout. Et tout ça, ça constitue un magnifique objet.
Alors pour qui chante-t-on ? Le chant a-t-il des vertus particulières ? Et quel rôle social joue-t-il dans les sociétés auxquelles vous êtes intéressé ? Voici quelques-unes des questions auxquelles nous tenterons d'apporter des réponses tout au long de cette émission. Comment trouver la juste place auprès des communautés que l'on étudie, Bernard Lorta-Jacob ?
C'est un peu les autres qui, ce sont les autres qui vous donnent votre place. Je pense que c'est très variable selon les ethnologues et selon les terrains et peut-être même selon les périodes. Si vous travaillez en milieu rural, par exemple, dans un village, les gens vous connaissent très vite. Si vous vous intéressez à ce que font les gens, la culture des arbres, ou à la technologie d'un moulin à eau, ou quelque chose comme ça, que vous intervenez, les gens disent, tiens, ben celui-là, il sait des trucs. Et après, progressivement, les gens savent, je dis les gens, enfin, les populations villageoises, vous comprennent que vous vous intéressez à leur musique, que vous vous intéressez à leur histoire. Le mot histoire ne veut pas dire grand-chose dans les traditions orales, mais quand même, c'est leur histoire, une micro-histoire. Quand on construit un répertoire musical comme au Haut Atlas sur un savoir-faire, on se réfère à des autres, aux voisins, à ses pères, à ses grands-pères, il y a une mémoire. Et donc on vous convoque, on vous invite à partager cette mémoire collective.
Allez, on accroche tout de suite nos ceintures en direction les voies de l'intime pour débuter ce tour du monde vocal. On prend la direction des îles Salomon, à l'est de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, auprès d'un duo féminin. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus, Bernard Lorta-Jacob ?
J'aimerais bien l'écouter avec vous d'abord, parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas écouté. Je me rappelle justement, vous aviez bien fait de le choisir, d'une relation très particulière entre deux jeunes femmes qui chantent ensemble, et c'est très émouvant. Alors si on pose la question de savoir à qui elles chantent, auprès de qui elles chantent pour elles-mêmes, elles se répondent dans un contrepoint, c'est le mot qu'on utilise, même s'il vient de l'écrit, où les voix se tressent entre elles.
Alors, il s'agit de Lamentations funèbres, c'est bien cela, Bernard Lorta-Jacob ?
Oui, ce n'est pas moi qui l'ai enregistré, mais d'abord, ce truc est extraordinairement émouvant. En fait, il y a trois acteurs là-dedans. Il y a les deux chanteuses et leur mémoire commune, puisqu'il s'agit de l'évocation d'un mort, une lamentation funèbre qui soit est chantée pendant des funérailles, soit est chantée pour rappeler l'existence du mort ou des funérailles. Et donc cette intimité, elle est très sensible. Dans le fond, pour que ce soit intime, il faut au moins deux personnes. Mais là, il y a un troisième, c'est naturellement le souvenir partagé. Donc les deux femmes qui pleurent sans doute le même mort ou quelqu'un qu'elles ont connu.
Alors c'est un enregistrement qui est signé Hugo Zemp, qui date de 1960. C'est un de vos compagnons de route, ethnomusicologue.
Un compagnon de route qui a travaillé en Afrique et puis aussi en Océanie. L'enregistrement est magnifique. Je ne sais pas si vous avez remarqué la qualité des voix, des souffles, l'enregistrement analogique aussi peut-être, qui donne cette chaleur du son. Et il y a beaucoup de finesse de la part de l'ethnomusicologue parce qu'il a été sensible à cette musique.
Et on sent qu'il y a comme une alternance entre la voix de tête et la voix de poitrine chez ces chanteuses.
C'est exactement ça. On l'avait pris dans cet exemple, dans une suite d'exemples que nous avions pris pour illustrer l'alternance entre une voix de tête et une voix de poitrine. Et là, elle joue là-dessus. Et ce qui crée deux registres. D'ailleurs, peut-être symboliquement, si on y réfléchit, cette histoire de registre dans le suraigu et de le registre grave, ou en alternance poitrine et voix de tête, comme on le dit quelquefois, c'est souvent deux mondes qui viennent en contraste. Il y a souvent, en Afrique par exemple, la voix de tête est souvent utilisée pour évoquer le monde des esprits. La voix de masque par exemple, on va utiliser une voix qui est d'une autre espèce que la vôtre.
On va en écouter tout à l'heure d'ailleurs.
Oui, on verra ça à ce moment-là.
Alors on quitte l'océan Pacifique pour la Méditerranée qui vous est chère, Bernard Lorta-Jacob, avec deux versions d'un chant traditionnel corse à 30 ans d'intervalle. Et alors le propos est celui d'un homme loin de sa mère et qui sait qu'il ne pourra pas la revoir. Alors ce qui nous intéresse ici, c'est l'effet du temps sur la voix, l'historicité de la voix, on pourrait dire.
Oui, alors ce sont des instruments qu'on m'a envoyés. Je n'ai pas la référence exacte, mais il y en a un qui date des années 70 et l'autre du début des années 2000. Le chanteur principal est le même. Et ce qui est étonnant, c'est qu'en 30 ans, on a l'impression que ce chant corse, qui est une polyphonie corse que maintenant tout le monde connaît, bien sûr, a changé d'espèce, de nature et je dirais de fonction. Puisqu'au départ, dans une padielle ou un chant comme celui-ci, qui n'est pas exactement une padielle, mais enfin en polyphonie, on chante plutôt pour le compagnon et avec le compagnon. Et dans la deuxième version qu'on va entendre de ce chant, on a l'impression que le chanteur s'adresse à la France-nation, en quelque sorte. Il veut proclamer, en quelque sorte, sa force en utilisant la réverbération de la voix, en doublant la deuxième partie qui va d'un seul coup devenir une espèce de voix chorale, comme si toute la Corse était unie derrière lui. Alors c'est assez singulier parce que une chose aussi fine que la qualité de la voix vous renvoie à des univers qui sont finalement assez contrastés.
On écoute tout de suite le premier extrait. Mamma
troppo mi sei agiato.
Ah, ça, c'était la première version. Maintenant, on va écouter la deuxième version, plus moderne. Sacrée voix, hein. Lettera a mamma. C'est comme ça que ça s'intitule ?
Lettera mamma, oui, la lettre.
Vous avez l'accent. Alors, il y a une facette de votre personnalité, Bernard Lorta-Jacob, que l'on n'a pas encore évoquée. C'est que vous êtes vous-même auteur-interprète. Est-ce que vous cloisonnez ces deux activités ? Je parle de l'ethnomusicologie et puis de la pratique de la musique et du chant. Ou est-ce qu'au contraire, l'une nourrit l'autre ? Ou est-ce que vous les avez toujours faites toutes les deux en parallèle ou...
Bon, vous m'obligez à parler de moi, donc je vais le faire. Ce sujet m'intéresse, comme disait l'autre. Mmh. Non, écoutez, moi, depuis 30 ou 40 ans, je vis avec des chanteurs, dans le cadre de mon travail. Les Corses, par exemple, je peux chanter avec eux sans problème. Et d'ailleurs, quand je vais en Corse, souvent, on m'invite à chanter parce que j'ai des racines, pas des racines biologiques, mais des racines culturelles très, très profonde et très forte avec la Sardaigne, et ils savent que je sais chanter. Et d'ailleurs, j'ai une façon de chanter, ils me disent un peu à la sarde, mais tu nous fais ton contre-sarde qui est intéressant, bien que je sois parisien. On me reproche d'être parisien d'un côté et d'être trop sarde de l'autre, vous voyez, ça se passe jamais comme on le souhaite. Et donc, ayant une passion pour les chanteurs, pour ce qu'ils cherchent en fait, et on va en parler durant votre émission, je me suis dit pourquoi je chanterais pas. Et j'ai chanté pendant... plusieurs, peut-être même au moins 10 ou 20 ans, tout seul dans ma salle de bain, comme tout le monde, et comme Woody Allen dans son dernier film magnifique, qui pense qu'il ne peut chanter que sous sa douche. Et puis j'ai fait des premières maquettes, et les gens, avec beaucoup de gentillesse, parce qu'ils m'aiment bien, je crois, ils m'ont dit, bah, écoute, tu chantes très mal, bon, et tes chansons, il faut que tu les fasses chanter par quelqu'un d'autre. Progressivement, j'ai fait des progrès, j'ai pris des cours de chant, et surtout, je fais beaucoup de textes, et des musiques, puisque je suis au départ musicien, et j'essaie de mettre ça en forme, et je me rends compte à quel point, et il faudrait faire une autre émission là-dessus, l'art de la chanson est un art difficile. Parce que vous êtes auteur, vous aimez vos mots, et vous êtes musicien, vous savez qu'il y a aussi un langage musical qui va vous apporter quelque chose, il faut combiner les deux. Après, il y a votre expression. Vous êtes un vieux monsieur, c'est mon cas, 75 ans, et puis vous allez parler de jeune fille, il ne faut pas être le vieux salace, il faut être à la fois humain. Bon, il y a tout ça, ça se fabrique, vous voyez. Et donc, la fabrication d'un chanteur, pour un gamin de 18 ans qui va à The Voice ou ailleurs, ça ne pose pas de questions. Il apporte son vécu et je peux quelquefois même sa vulgarité dans certains cas. Mais moi, j'ai à me fabriquer quelque chose. Et donc, c'est assez difficile d'arriver, disons, à faire les choses convenablement. C'est-à-dire que le produit musical me ressemble et me satisfasse.
Alors, on va écouter un de vos textes. Ça s'intitule « Une fille, ça brille ».
Ça brille quand ça s'habille pour les garçons. À découvert, nombril à l'air, le ventre est rond. En blanc et rose, ah, on se pose des questions. Ça fait pain pêche, tu dis, ce jeu de mèche sur le front. Chez Sephora, on prend la pose et qu'on s'expose en noir et blanc. Pointe des pieds, on dribble du haut de ses 13 ans. On est looké comme les pubs qu'on voit dans Elle. Ah, dis-moi, ça fait trop pute, la dentelle.
Ouais.
Moi, j'en mets pas. Peut-être un jeans ou un legging, un pantalon quadrimon, dont le repli vient se briser sur les talons. Qu'on pensait que ça ferait joli, que ça ferait l'affaire. À part maman qui nous dit que ça fait vulgaire. Et tandis quoi, côté cœur, moi et ma sœur, on lit des livres. Savoir pourquoi les filles pleurent, pas les garçons. Les états d'âme chez les dames font des ravages. Les Red Butler vibrent encore sous leur corsage. As-tu crois ça? On s'habille, on se déshabille pour les garçons. Chiche qu'on essaye, oui mais en vrai, c'est vraiment, vraiment pas pareil. Avec la langue, bah, mais c'est dégoûtant.
Ah, c'est dégoûtant.
Mais il suffit, on me l'a dit la première fois, de faire semblant. De faire semblant.
Ouais.
Alors c'était Bernard Lorta-Jacob, là c'était plutôt le côté auteur, compositeur, interprète qu'on explorait à l'instant avec vous, avec ce titre, Une fille s'abrille, tiré de votre second album, parce que vous en avez déjà fait deux, qui s'intitule Portrait de femme, et d'ailleurs vous êtes en train de préparer le troisième, m'avez-vous dit, avant de démarrer cette émission. On continue notre tour du monde ?
Culture musique, la voix dans tous ses états.
Avec Jérôme Sandelaars.
Alors là, ça y est, on a déjà un pied dans l'extrême, Bernard Lorta-Jacob. On a quitté les voies de l'intime pour se rapprocher des voies de l'extrême avec ce morceau au titre imprononçable. Vous allez m'aider, Dante Tipurit, c'est ça?
Dante Tipurit.
Donc c'est extrait de Voices and Fiddles of OH, des voix qui nous viennent du nord de la Roumanie. Et là, je me dis que les filles, si elles draguent comme ça, ça doit pas être évident, non, pour les...
Alors, il y a une grosse affaire anthropologique sur cette histoire du registre aigu, parce que l'aigu, en tout cas dans le pays de l'OH, dans le nord de la Roumanie, pas très loin de l'Ukraine, en fait, dans un isolat du point de vue culturel, a développé ce goût pour l'aigu, sur le suraigu, qui est aussi bien pratiqué par les hommes que par les femmes. Quand on a vu ça, c'est une chose connue, à part que le diapason monte chaque année, si je puis dire. Enfin, tous les 10 ans, on sait, parce que Béla Bartok, en 1912 et 1913, a fait des enregistrements que j'ai pu récupérer, très beaux d'ailleurs, et les a transcrits. Bartok transcrivait toutes les musiques de tradition orale avec beaucoup d'habileté. D'ailleurs, j'ai utilisé ces transcriptions pour voir un peu comment la musique avait évolué depuis 1912, près plus de 100 ans après, et quelquefois les musiciens disent « Oh, mais ça, mon grand-père le jouait, ou alors, bon, je joue plus comme ça, ou bien là, il y a une faute ». chez Bartok, il faut quand même le signaler, mais le paysan roumain a remarqué qu'il manquait un temps. Bartok, peut-être dans la rapidité de la copie, ne s'était pas rendu compte. C'était une expérience archi-intéressante, parce que ça faisait revivre Bartok, le grand musicien, musicologue et ethnomusicologue, le premier, peut-être le plus grand de tous. Et donc, Bartok, quand il faisait ses transcriptions 1912-1913, qu'il a mis à jour un peu plus tard, mais en tout cas bien avant la guerre de 40, signalait un diapason un peu aigu, mais pas très aigu. Et maintenant, on est une quinte, une sixte supérieure par rapport, comme c'est, on a un violon qui nous sert de référence, le violon, au lieu d'être fondé sur le sol, la corde de sol, devient ré, mais mi bémol, donc il est très aigu. Et le violon est traficoté dans tous les sens, c'est-à-dire, c'est assez compliqué du point de vue organologique, on n'a pas beaucoup de temps, on abaisse le chevalet, on tire le cordier, etc. Et on met des cordes qui peuvent résister une forte tension, et tout monte. Et pourquoi on fait monter les violons? Parce que les chanteurs veulent chanter de plus en plus aigu, ou peut-être aussi les musiciens aiment bien parce que ça fait briller le violon. Tout le monde sait bien qu'un diapason, ça fait briller. Et donc, on est dans une espèce de culture de l'aigu. Maintenant, je vais être un peu long, mais on est obligé de faire ça. Ce sont les jeunes qui chantent comme ça. Ce sont les jeunes qui sont en état de se marier jusqu'à 20, 22 ans, les filles quelquefois moins, bien sûr, qui se retrouvent sur le chapiteau de danse, du moins elles le faisaient parce que maintenant ça s'est un peu perdu, et qui chantent dans ce suraigu pour, en quelque sorte, se confronter et se séduire. Et donc, l'aigu est bien associé à une séduction. Et quand ils sont mariés, ces jeunes gens, même à 30 ans, eh bien, ils passent une octave en dessous. C'est bête comme chou. Et donc, ça veut dire qu'on a changé de système. On n'est plus dans un système de séduction, c'est un système de plaisir de chanter avec des copains.
On quitte le pays de l'OH pour rejoindre à vol d'oiseau la Sardaigne, votre chère patrie, ou seconde patrie, si je puis dire, avec Cantu Aquitera, des chants à guitare. Et cette fois, il s'agit d'une voix extrême dans le souffle. On l'écoute tout de suite et puis on la commente après.
Oui.
Alors là, Bernard Lorta-Jacob, on est en Sardaigne, et de qui s'agit-il ?
Alors, en fait, nous avons trois chanteurs qui sont en compétition. Le premier, c'est Francesco De Muro. De Muro, c'est son nom sarde, qui est devenu De Muro. Je ne sais pas pourquoi il a abandonné son ou, plutôt je sais exactement pourquoi, parce qu'il s'est italianisé et il est en train de faire une magnifique carrière. Il a chanté à l'Opéra Bastille il y a une année dans la Traviata. Et donc il a abandonné le chant sarde traditionnel, il était d'un milieu très, très humble du nord de la Sardaigne, pour se lancer dans le chant lyrique. Et il arrive à faire les deux, curieusement. J'y croyais pas d'ailleurs, moi, en tant que musicologue, je me dis, tiens, s'il abandonne la technique sarde, donc une très forte tension, une grande puissance, on serre beaucoup la gorge, on joue beaucoup sur les nasalités, on porte, le chant doit porter le plus loin possible, parce que c'est un travail d'intensité et d'aigu, et ben il va casser, il pourra pas faire les deux. En fait, il le fait. Il fait donc moi je l'ai pas entendu à l'opéra, mais il a été choisi, donc il est tout à fait bon, et il continue chaque été, il vient pas loin de mon village, d'ailleurs, enfin mon village, du village où je réside en Sardaigne, et il est très aimé des villageois parce que c'est un type qui a une personnalité de feu. Et donc, il est en compétition. Alors là, on va quand même prendre juste 2 minutes pour en parler. Il y a une trame. Il y a une trame mélodique que tout le monde connaît, et puis il y a le guitariste qui doit suivre les harmonies qu'introduisent les chanteurs. Donc c'est une composition à plus d'un titre. Entre les chanteurs, entre le guitariste et le chanteur, parce que le chanteur va essayer de piéger le guitariste qui doit trouver des bons accords. Et en plus, alors peut-être le plus important, et surtout à la fin du chant, on doit chanter faire des phrases le plus long possible. Et les records, là, quelquefois, je m'amuse à les mesurer, c'est 35 secondes sans reprise de souffle. Vous voyez, ce qui est considérable. Hein. Imaginez ce que c'est que 35 secondes, c'est presque une apnée, voilà. Et plus c'est long, plus c'est aigu, plus c'est beau, plus c'est fort et plus c'est aimé, et plus les gens sont prestigieux et plus sont, voilà. Ça vous donne une technique. Parce qu'une fois que vous avez fait ça sur les places de village, en Sardaigne, et encore cet été, ça se fera et ça se fait depuis toujours, enfin, en tout cas, depuis très très longtemps, de mémoire d'homme, comme on dit, eh bien, quand on fait ça dans le Mistral, dehors, 3 heures de suite, avec des amplifications désastreuses, ça c'est un autre problème, eh bien, ça vous donne une force vocale très particulière. Après, vous pouvez vous lancer dans la Traviata, il n'y a pas de problème.
Alors, on s'écarte un petit peu de la Sardaigne, mais pas tant que ça, pour rejoindre l'île de beauté avec une jeune chanteuse qui a participé, on vous l'évoquait tout à l'heure, à la saison 4 de The Voice en 2015. Un ethnomusicologue fan de The Voice, étonnant, non ?
Écoutez, oui, ça m'amuse. Genre, je m'en lasse un peu, je vous cache pas. Oui, au début, je trouve ça formidable parce qu'on découvre des choses. Après, bon, c'est pas tout. Peut-être qu'on se lasse de tout, mais il y a une espèce de rhétorique un peu ennuyeuse et des rôles déjà préfabriqués que l'on sent dans le dispositif, pas pour dire du mal spécialement. Mais en tout cas, elle a fait. Alors, c'était intéressant parce qu'elle avait naturellement toute la Corse derrière elle, parce que si la Corse entrait dans The Voice, la Corse devenait quelque. Bon, vous voyez comme quoi la musique est toujours au centre de problèmes politiques sérieux.
Alors on entend sa voix, donc il s'agit de Battista Acquaviva, psaume de David. Alors, quelques commentaires sur cette voix qu'on est en train d'entendre, là, justement, Bernard Lorta-Jacob, que vous qualifiez de voix de sifflet,
Oui, c'est pas moi qui l'appelle comme ça. Il se trouve que c'est une voix assez rare. C'est la voix que font les enfants, en fait, les petits-enfants. Vous savez, quand ils crient dans le suraigu, c'est insupportablement aigu. Donc, ce sont des voix qui... ça passe au-dessus de 1000 Hz largement, c'est très très aigu. Et pourquoi on l'appelle voix de sifflet? Parce que le signal est pour deux raisons. Excusez-moi, il faut que je prenne un peu de temps quand même. Deux raisons. La première, trop, hein. C'est que le spectre obtenu ressemble à un sifflet. Si vous sifflez, je ne le siffle pas, mais vous pouvez savoir ce que veut dire siffler. Mmh. Vous obtenez un spectre avec deux harmoniques, c'est-à-dire pas du tout un spectre d'une voix normale. Ah, vous avez beaucoup d'harmoniques. Donc, premier élément. Et il y a une deuxième raison pour laquelle on l'appelle sifflet, c'est que très probablement les cordes vocales ne vibrent pas. Je dis très probablement, parce que ça n'a pas été complètement prouvé. C'est-à-dire que vous sifflez vraiment, mais avec le gosier, vous comprenez? Et on voit les cordes vocales qui vibrent. Il se trouve que cette charmante...
Baptiste Aguavita.
Oui, je l'ai conduite au laboratoire d'acoustique musicale. On a fait des analyses. On lui a fait passer des trucs, c'est assez pénible, hein, pour essayer de voir si les cordes vocales. Et il semblerait que les cordes vocales ne vibrent pas. Elle n'est pas la seule à faire ça dans le monde, mais c'est une technique assez rare qu'elle a développée chez elle pour elle. Par ailleurs, elle est corse. Elle chante aussi avec une très belle voix, d'ailleurs, une très belle voix dans l'aigu, mais avec une voix de tête, comme toutes les femmes, ou comme beaucoup de femmes en tout cas.
Et c'est vrai qu'elle n'est pas la seule d'ailleurs, parce qu'en début de semaine, on a évoqué l'exemple de Mariah Carey,
oui,
qui chante aussi avec cette voix de sifflet, voilà. Et puis Minnie Riperton, dont elle s'est inspirée, qui est une chanteuse de soul. Donc vous avez tout à fait raison. Est-ce que vous pensez qu'il y a une sorte de filiation entre le son de sa voix et le violon qu'elle a pratiqué quand elle était enfant? Je pense à ça parce que je me souviens d'un documentaire que j'ai pu visionner récemment du contre-ténor Philippe Jarouski, qui disait que finalement, s'il avait cette voix de contre-ténor, c'est sans doute parce qu'il avait pratiqué du violon et cet instrument qui est plutôt céleste.
Je ne sais pas. Ça ressemble à une génération spontanée parce que personne ne chante comme ça encore. Son père était, parce que malheureusement, il ne chante plus beaucoup maintenant. En tout cas, pas à un niveau de haute qualité comme il chantait autrefois. Et il chante tout à fait dans la tradition. Alors, elle connaît bien la tradition. Elle a beaucoup vécu chez les chanteurs. C'est une vie qui a beaucoup de sensibilité musicale. Mais c'est elle qui a inventé cette technique. Et je ne sais pas du tout. Je n'ai même jamais demandé où tu as trouvé ça.
On quitte le sud et les aigus donc pour les graves du Tibet maintenant. Accrochez bien vos ceintures, chers auditeurs. Les voix rugissantes du dieu de la mort. C'est comme ça que vous les présentez dans le coffret Les Voix du Monde. Il s'agit en fait du chant de gorge, là qu'on est en train d'écouter, dit chant diphonique des moines de Gyuto. Chant de gorge, chant du Tibet, c'est un enregistrement réalisé par Jean Schwartz en 1975. Jean Schwartz, c'est un de vos confrères?
Oui, collègue, musicien, qui a travaillé au GRM pendant longtemps, compositeur, éditeur de jazz, qui a fait des magnifiques disques avec André Francis. Bon, peu importe, je suis pas là pour faire sa publicité, mais il est aussi assez doué pour la prise de son, parce que l'enregistrement est absolument superbe. Il a été fait, je m'en souviens, parce que j'y étais, au Bouffe du Nord, qui est cette salle, une des meilleures salles de Paris sur le plan acoustique, selon moi. Et donc, on entend tout, quoi. On entend vraiment tout. Et qu'est-ce qu'on entend, en fait? Parce qu'on dit voix de gorge, mais dans le fond, je suis pas trop fier de cette terminologie. Je sais même pas si nous l'avons utilisée nous-mêmes. C'est une voix avec... une fondamentale assez basse et un renforcement des sous-harmoniques de la fondamentale et des résonances qui font qu'on entend tout un spectre aigu, le dixième harmonique, puisque c'est comme ça que nous l'avons mentionné, c'est une tierce au-dessus du troisième octave. C'est très très aigu, comme une voix qui planerait, irréelle. Donc on peut imaginer spirituel, mais il ne faut pas se projeter dans ces musiques-là, parce qu'il faut les connaître de l'intérieur. Musique qui a d'ailleurs, enfin, ces musiques sont notées, vous le savez peut-être, les textes et aussi les musiques, mais notées par les moines eux-mêmes depuis très longtemps, mais on a toujours un peu du mal à comprendre ce qui est noté. Ils ont des arabesques, des signaux qui renvoient alors probablement à la technique vocale, c'est-à-dire qu'on doit faire à ce moment-là ce mouvement vocal qui vous permet de produire tel son. Mais le travail finalement sur la façon de chanter, c'est une chose qui a été découverte par les ethnomusicologues assez récemment. Il y a beaucoup de techniques vocales qui consistent à transformer un son fondamental pour lui donner beaucoup d'épaisseur et beaucoup de volume dans l'aigu. Et ça, c'est une partie qui est quand même fondée beaucoup sur la décontraction de la gorge, de la mâchoire. Il ne faut pas du tout de la tension parce que vous n'obtiendrez jamais un son convenable. Il faut détendre tout à fait. Être un peu en contemplation, peut-être.
Et alors, c'est une pratique vocale qu'on retrouve chez des artistes comme Albert Kuvzin du groupe Yatka ou Nourtou, qu'on retrouve chez Senko Namchilak, donc qui sont des artistes qui sont originaires du pays de Touva, cette petite république au sud, je crois, de la Mongolie, qu'on évoquait en tout début de semaine.
Aujourd'hui, dans Culture Musique, les voix du monde, avec Bernard Lorta-Jacob et Jérôme Sandlars.
Alors, vous l'aurez peut-être compris avec ce cri de Tarzan poussé par Johnny Weissmuller en 1932. On change d'univers vocal. Il s'agit du yodel, un chant qui consiste à alterner rapidement une voix de poitrine et une voix de tête. Il se pratique en Allemagne, en Autriche, chez les Pygmées, mais aussi en Albanie, Bernard Lorta-Jacob.
Oui, dans les Alpes, hein, parce que pour l'Albanie, il y a une partie des Alpes, mais c'est compliqué parce que c'est une technique vocale qui est permise par la constitution même du gosier, en quelque sorte. On peut passer, changer de système de ce sont les cordes vocales qui changent de morphologie très rapidement, et on se sert aussi de la voyelle pour changer la couleur. Donc ça se fait assez vite, et donc le yodel, c'est un effet qui est recherché et toutes les populations peuvent le faire. En Albanie, certains villages de la montagne ont développé cette technique vocale très impressionnante, qui rappelle, alors peut-être dans l'idéologie, l'appel de montagne à montagne, mais en pratique, comme il n'y a plus beaucoup de monde dans les montagnes albanaises maintenant, je doute que ce soit ça la principale raison. Par ailleurs, on peut s'appeler en montagne sans utiliser le yodel. Donc, faut pas chercher des raisons trop organistes, trop organicistes ou trop, comment dire, déterministes entre le milieu naturel et la technique vocale. En tout cas, dans certains villages d'Albanie, on sait encore chanter de cette façon-là.
Alors c'était Song for Audrey Chan, extrait de l'album Vocal and Instrumental Polyphony, polyphonie vocale et instrumentale d'Albanie.
Oui, c'est un enregistrement qui a été fait au temps de l'Ancien Régime. Donc le texte glorifie la patrie albanaise. Un enregistrement qui date de 1980, au début des années 80, que j'avais fait moi-même quand j'avais été invité par les Albanais à faire des enregistrements, mais un petit peu, comment dire, dirigés par eux-mêmes, parce que c'était difficile de faire l'ethnomusicologue libre, c'est-à-dire qui va voir les gens. Bon, il y avait quand même une assez grande prise en main de l'idéologie et des textes, des chants notamment, et donc quand on pouvait faire des enregistrements, ce qui a été mon cas, et j'étais très très content de le faire, c'est vraiment extraordinaire du point de vue musical, eh bien j'étais un petit peu dirigé par les gens qui m'accompagnaient.
On quitte les rives de l'extrême pour aborder les rives du Gange, cette fois avec un exemple de raga indien, et donc on démarre dans notre série autour de la voix instrument. Alors là, Bernard Lorta-Jacob, il s'agit vraiment d'imiter le son de l'instrument.
Oui, tout à fait. C'est une imitation, c'est une symbolisation, comme le solfège. Quand vous dites do ré mi fa sol la si do, c'est chanté, ça aide la mémoire, ça aide à la mémorisation des thèmes, des mélodiques. Et là, il y a un jeu entre l'instrumentiste et le chanteur qui est extraordinaire, parce qu'il y en a un qui lance un ensemble de syllabes et l'autre doit le reproduire. Et donc, c'est très divertissant. Ça. Les Indiens et les Européens aussi adorent ce genre de truc. Quoi.
D'ailleurs, on se rend compte que c'est une tradition qui a été reprise par pas mal d'artistes par la suite, puisque là, l'enregistrement date des années 50 à Madras, réalisé par un certain Alain Danielou. Mais hier, on écoutait la chanteuse pop anglo-indienne Sheila Chandra, et qui elle aussi pratique le raga indien. Donc évidemment, hommes et femmes peuvent...
Ce qui est intéressant sur le plan théorique, c'est la façon dont fonctionne l'intelligence musicale. Il se trouve qu'on a toujours été un peu obsédé par le solfège. Des ethnomusicologues, au départ, disaient, bon, le solfège, ça va très bien pour les musiques occidentales, mais ça sert à rien pour traduire les musiques du monde. Mais alors, au bout du compte, on s'aperçoit que les musiques du monde, pour les appeler comme ça, elles ont des systèmes de solfisation, enfin de solfège, pour solféger la musique, c'est-à-dire lui donner un contenu symbolique qui permet de la manipuler, de la mémoriser, de jouer, de faire des inversions. Et il y a ça partout, à Bali, en Inde, au Japon, c'est même assez connu, en Afrique aussi, voilà, et chez les Berbères aussi, du Maroc, puisque je l'avais étudié, pour la poésie. Donc ce sont des intermédiaires de la mémoire, ce sont des choses qui vous aident, qui aident ce qu'on appelle la cognition, c'est la façon de concevoir et de comprendre la musique et pour mieux la reproduire plus facilement.
Alors vous me corrigerez si je dis une bêtise, mais je crois que les enfants en Inde commencent par apprendre comme ça vocalement avant même de toucher l'instrument, les tablas.
Oui, en Europe aussi, parce que j'avais pris longtemps des cours de tabla, je commençais comme ça, oui, Dan. Donc on commence par des formules et après on les reproduit. Après, il y a une association entre le geste et la langue. qui est tout à fait utile. Donc c'est comme ça qu'on devient musicien, il n'y a pas 36 façons, c'est pas en faisant des gammes tout seul dans son coin, c'est en intériorisant finalement des schémas métriques, mélodiques, et après en les reproduisant et en faisant les deux à la fois qu'on développe son intelligence musicale.
On quitte l'Inde, direction à présent l'Afrique, avec une berceuse enregistrée par vos soins, Bernard Lorta-Jacob, en 1988, dans le district de Gargando. Alors je précise que nous sommes au Mali, hein, Bernard Lorta-Jacob. Je suis pas sûr qu'on arrive vraiment à endormir les enfants en chantant comme ça. Si vous avez été témoin, ça marche.
En tout cas, pour la maman, ça marche. Parce que, je vais vous dire, parce que je me rappelle maintenant, et je l'avais pas entendu depuis pas mal de temps, cet enregistrement. Je voulais enregistrer, parce que je savais que ça existait, ces chants-là, et je voulais absolument enregistrer. Et une femme me dit, moi, je veux bien te le chanter, mais j'ai pas d'enfant. Et il est pas question de le faire si j'ai pas d'enfant. Alors, on lui a trouvé un bébé qui était pas le sien. Et ce qui se fait pas normalement, mais après tout, pourquoi pas? Puisque elle, une fois qu'elle avait enclenché à la fois la tendresse qu'elle avait pour le bébé, la voix est venue avec, et elle a magnifiquement chanté. Et alors, on retrouve le thème, votre thème du départ, c'est l'intimité par excellence, c'est-à-dire qu'elle fait des recommandations à son bébé. Et souvent, d'ailleurs, les mères, j'ai vu ça en Éthiopie, surtout les mères, elles engueulent leur gosse aussi. Elles leur disent, j'en ai assez de te porter, de te nourrir, quand est-ce que tu viendras à m'aider, à porter des bois, c'est toujours moi qui fais tout. Voilà, il peut se passer beaucoup de choses entre une maman et sa petite fille ou son fils, je ne me rappelle plus si c'est un garçon ou une fille, mais il avait peut-être 4-5 mois, c'était vraiment un bébé. Et donc voilà, et donc c'est tout à fait intime, c'est magnifique. Il y a une imitation instrumentale puisque c'est le sujet du jour là en ce moment. J'ai marqué flûte, mais en fait c'est bizarre, c'est l'enquête qui a dû me dire ça parce que je ne crois pas l'avoir inventé. Mais en l'écoutant, ça ressemble plutôt à l'amzad, qui est cet instrument typiquement touareg, qui est un monocorde, une vielle qui a aussi ce ton un peu nasal. Et bon, en tout cas, j'ai mis flûte, c'est peut-être une erreur, mais c'est bien un instrument qu'elle cherche à imiter.
Culture musique, la voix dans tous ses états.
Avec Jérôme Sandelaar.
Alors là, il s'agit d'une joute, c'est ça ?
Joute, oui, homme-femme, qui chantent dans le même registre. Alors, pour les femmes, ça ne pose pas trop de questions, pour les hommes, davantage. Et Chiquette del Carme, c'est un petit homme qui se présente d'ailleurs dans le chant, qui est tout petit et qui essaie de rivaliser avec ces femmes qui sont des matrones, qui sont des femmes magnifiques, très très puissantes, plutôt un peu grasse, un peu voilà, costaud quoi.
On est à Valence, je précise.
Oui, alors il essaie de chanter dans l'aigu et enfin c'est pas qu'il essaie, la tradition lui l'impose, enfin, on doit chanter dans l'aigu et il doit y arriver à tout prix. Voilà. Et ben ça c'est une grosse affaire anthropologique, il faudrait faire uniquement une émission là-dessus sur les registres, la façon dont les hommes essaient de conquérir le registre des femmes ou les femmes les rejettent. Il y a toute une chose symbolique qui est tout à fait essentielle sur le registre vocal.
Alors, Back to Africa, à nouveau. Vous avez choisi de nous faire écouter des chants de filage de petites filles, Bernard Lorta Jacob, où on se rend compte, comme dans les chants de coton du Mississippi, finalement, que les chants accompagnent le travail. On écoute un petit peu, puis on le commente après. Alors là, avec ces chants de filage de petites filles, on est en Éthiopie, c'est ça ?
Oui, au sud de l'Éthiopie.
Donc, c'est une population qui est principalement composée, je crois, d'agriculteurs ?
Oui, oui, des agriculteurs sédentaires au sud de l'Éthiopie, les Dorzés. Et bon, ces chants sont très étonnants. D'abord, ce sont des toutes gamines, hein, elles ont 10 ans, 12 ans, et qui vont dans un atelier, pas un atelier, une maison spécialisée en quelque sorte, où elles font du filage entre elles. Elles filent la laine et elles chantent. Et donc, qu'est-ce qu'elles font ? Elles font des litanies, des lieux, des généalogies, des descriptions d'espace, des relations sociales. On n'est plus tout à fait dans l'intime. Là, dans le fond, on s'informe sur le monde dans ce type de chant. Et ce sont des chants de travail, mais alors un peu peut-être à la différence du Mississippi, le geste n'accompagne pas exactement, puisque le geste du filage, c'est un geste qui ne suit pas forcément ce rythme-là. Mais on est en compagnie, on chante ensemble, on chante en polyphonie. Là, c'est très simple. Il y a une voix soliste, un chœur, et puis il y a une troisième voix qui fait des contrepoints très jolis, quelquefois une à quatre. Il y a une espèce, c'est un jeu, quoi. C'est un jeu musical absolument merveilleux. Elles sont de merveilleuses chanteuses.
On ne quitte pas l'Afrique, puisqu'on met le cap sur la Côte d'Ivoire, avec des voix dites de masques. C'est bien cela ?
Oui, de masques, absolument. Parce que quand on parle de masques, on pense tout de suite aux figurations de masques. Hein, Nice, Rio, ce que vous voulez. Alors que pour l'ethnomusicologue, le masque, c'est une façon de transformer sa voix. On peut transformer sa personne, on peut transformer sa voix. Et c'est tout à fait essentiel dans les religions africaines, notamment parce que quand il s'agit d'évoquer la voix des ancêtres, une voix de masque, c'est-à-dire la voix de quelqu'un d'autre, qui n'est plus vous-même. Vous parlez à la place, comme un personnage théâtral qui porte un masque, il n'est plus lui-même. Donc la voix supporte en quelque sorte le masque, comme le corps peut aussi supporter le masque de la même façon.
Voix travestie. Thank you. Ah, c'est vraiment superbe ça. Je vous disais hors micro, là, pendant qu'on l'écoutait, Bernard Lorta-Jacob, que ça me faisait penser étrangement à une reprise de Headhunters avec Herbie Hancock. Je pensais notamment au titre Watermelon Man. Et puis vous me disiez, bah non, pas tout à fait, Jérôme, c'est plutôt les pygmées, ils sont plutôt les piqués du côté des pygmées.
Oui, c'est un gros débat parce que les compositeurs, ils sont très, très, très désireux de les instruments que nous ramenons. Nous ne les ramenons pas à des fins ni commerciales, ni même d'inspiration pour les compositeurs qui se rendent pas d'inspiration. Nous les ramenons parce qu'il faut documenter les choses du monde, tout simplement. C'est le travail de l'ethnomusicologue. Il y a eu des débats, il y a eu aussi même peut-être des procès d'ailleurs, qui ont été quelquefois gagnés par des populations qui pouvaient, à juste titre, dire que la musique qui avait été récupérée par tel ou tel compositeur leur avait été empruntée sans qu'on leur demande leur avis, ni qu'on leur apporte même le moindre privilège ou avantage. Donc, dans le cas des sifflets qu'on va entendre, oui, ça a été illustré, la première fois que ça a été documenté, à ma connaissance, mais peut-être avant aussi, par mon collègue Simra Arom, qui a fait un magnifique enregistrement chez les Pygmées, avec l'alternance du sifflet et des voix, et donc c'est une intelligence musicale remarquable, et évidemment, Hancock était très contente de trouver ça sur son chemin, et il a peut-être eu raison de le faire.
On passerait des heures à discuter avec vous, Bernard Lorta-Jacob. On est déjà au bout du voyage et au bout de cette semaine consacrée à la voix dans tous ses états. C'est ainsi que s'achève notre voyage. Donc, merci à vous, Bernard Lorta-Jacob, pour ce magnifique périple vocal parmi les voix du monde. Merci encore à Arthur H., notre parrain, toute cette semaine, à tous ceux qui m'ont prodigué leurs bons conseils, Antoine Villoz, Michael Simon, Dominique Leroy, Christian Charles, Patrick Derlon et enfin à ma douce Fanny Leroy pour sa précieuse collaboration. À la réalisation toute cette semaine, il m'a accompagné sans jamais élever la voix, l'excellent Vincent Abouchard. Derrière la console aujourd'hui, Eric Boisset. Vous pouvez réécouter cette émission et toutes les précédentes sur le site de France Culture, à la rubrique Culture Musique. Vous y trouverez toute la programmation musicale, des photos, des liens vidéo et même des petits modules sonores inédits. Bonne fin de semaine à tous. Portez-vous bien à l'écoute de France Culture.